Parole d'assaut, une émission de Didier Blonz, prise de son Gisèle Billan. Aujourd'hui, nous recevons un camion citerne pour les Sahraouis, avec pour invités Pierre Toutain et Franck Boinet. Pierre Toutain, Franck Boinet, bonjour. Qui sont ces Sahraouis et accessoirement, quelle est leur situation ?
Les Sahraouis étaient autrefois des nomades. Leur pays, le Sahara occidental, a été colonisé par les Espagnols à la fin du 19e siècle. Et au moment où les Espagnols ont quitté le pays, leur territoire a été envahi par le Maroc. Le nomadisme n'existe plus chez les Sahraouis, ils se sont fixés comme la plupart des populations de ces régions-là. Et aujourd'hui, les Sahraouis vivent séparés. Une partie de la population vit sur le territoire du Sahara occidental, dont une grande partie est occupée par l'armée marocaine et par des colons marocains. Et l'autre partie de la population sahraoui vit dans des camps de réfugiés, sur le territoire algérien, dans la région de Tindouf, dans une région très inhospitalière.
Pierre Toutain.
Le problème est né au départ des Espagnols. Les Espagnols ont signé un traité secret, qu'on appelle les accords de Madrid, et qui remettait en quelque sorte le territoire aux Marocains et aux Mauritaniens. À partir de ce moment, une guerre de libération s'est constituée autour du Front Polisario, qui était un front réunissant toutes les tendances sahraouis qui voulaient libérer leur territoire. Et une guerre a eu lieu, extrêmement brutale, extrêmement violente. Une partie de la population a fui les combats et s'est réfugié sur le territoire algérien, ce qui explique la présence des camps aujourd'hui. La guerre, elle a duré jusqu'en 1991. Le Polisario a pensé qu'il était possible de signer un accord, ce qui a été fait sous l'égide de l'ONU. Le cessez-le-feu existe depuis 1991, donc, et dans les accords de paix qui ont été signés à ce moment-là, était prévue l'organisation d'une mission des Nations Unies qui s'appelle Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Le titre a beaucoup d'importance puisqu'il s'agit effectivement du référendum. Et l'ONU avait prévu très rapidement d'organiser un référendum pour savoir si les Sahraouis voulaient être indépendants ou s'ils voulaient être rattachés au Maroc. Ce qui a motivé la décision de l'ONU, c'est le fait que le Sahara occidental ex-espagnol était un des derniers territoires à décoloniser de la région, et se fondant sur un arrêté de la Cour de justice internationale dans lequel on disait que les juges qui avaient pris cette décision disaient que le Sahara occidental n'était pas un territoire dépendant du Maroc. Voilà pour ce qui concerne l'histoire, très rapidement résumée.
On peut penser qu'à chaque fois qu'il y a eu des colonies, puis des décolonisations, on a laissé un beau bazar.
Alors là, les problèmes ne devraient pas exister, puisque ce qui est le fondement de l'organisation africaine telle qu'elle est aujourd'hui, c'est les États qui se sont réunis dans l'Union africaine ont décidé d'un commun accord de ne reconnaître pour frontière que celle qui avait été dessinée par les colonisateurs. Ce qui explique en partie la volonté des Sahraouis d'avoir l'indépendance de leur pays et de libérer leur territoire par la même occasion.
Normalement, il y aurait un traité de paix, on parle de référendum, on en est où aujourd'hui? On n'entend plus du tout parler dans les actualités.
Pour ce qui concerne le référendum, il fallait l'organiser à partir d'un recensement de la population. Ce recensement avait été commencé par les Espagnols eux-mêmes en 1974, mais rapidement, après l'invasion par le Maroc, pour mémoire, les Marocains ont appelé cette invasion la « marche verte », Après cette invasion, les Marocains ont essayé de faire entrer dans les listes électorales beaucoup de leurs compatriotes, ce qui compliquait les choses. Donc il y a eu toute une longue période où il a fallu trier entre les gens qui étaient effectivement des Sahraouis et ceux qui ne l'étaient pas. Et le corps électoral a été défini au bout de 5 ou 6 ou 7 ans, je ne sais plus exactement. Mais aujourd'hui, il est défini. Sauf que le Maroc, lui, ne fait qu'une seule proposition. Après avoir envahi le pays, il ne fait qu'une seule proposition. C'est une proposition d'autonomie. C'est-à-dire qu'il refuse l'indépendance du Sahara occidental. Il souhaite rester maître des décisions qui concernent ce territoire.
Dans le sol, il y a des choses à récupérer ?
Oui, beaucoup. Le Sahara occidental est un pays, c'est une des plus longues côtes qui borde l'Atlantique et c'est une zone extrêmement poissonneuse. Beaucoup de pays vont pêcher dans ces eaux, y compris dans les eaux territoriales sahraouies que le Maroc s'est octroyé. Il y a sur le sol lui-même une énorme mine de phosphate, la mine de Boukra.
Pour les engrais.
Oui, bon, après.
Entre autres,
oui. C'est, je crois, le deuxième producteur mondial. Il y a des recherches qui ont été faites aussi offshore concernant le pétrole. Total, d'ailleurs, a participé à ces recherches-là. Il semblerait qu'il y ait aussi du pétrole, peut-être sur les territoires. On pense aussi qu'il y a du fer. Les mines de Zouerat en Mauritanie sont très proches de la frontière, donc on peut penser que le filon métallifère se prolonge sur le territoire du Sahara occidental. Point de vue agriculture, il y a d'énormes possibilités. Il y a aussi la possibilité d'utiliser le soleil, puisqu'il est très présent dans cette région-là, etc., etc. Donc c'est un pays qui potentiellement contient de très grandes richesses.
Votre association, un camion-citerne pour les Sahraouis. Alors les Sahraouis, ils se dessinent, et ce camion-citerne ?
Le camion-citerne pour les Sahraouis est né il y a... En 94, je crois, je ne me souviens plus exactement de la
Internet
date.
Nous dit 28 ans, mais...
Ça doit être quelque chose comme ça.
Est-ce qu'il est actualisé ? Je ne sais pas.
L'idée, on a été au courant au Havre de la question Sahraoui, on a été mis en présence de la question Sahraoui grâce à un étudiant qui était à l'IUT au Havre et qui a parlé de son pays, des conditions de sa vie, des difficultés qu'il rencontrait dans les campements. Et à partir de là, est née l'idée d'une aide humanitaire, pour le coup. Avec la municipalité de l'époque, on a essayé de trouver les financements pour acheter un camion-citerne, pour transporter l'eau dans les campements, l'eau qui posait vraiment un très, très grand problème. Ce camion a été acheté, il a été livré, il a servi, il a dû rouiller depuis... Mais on a souhaité conserver ce nom-là pour marquer un peu la naissance de notre association. Et donc l'association, bien que nous n'ayons vendu, entre guillemets, qu'un camion, on a souhaité garder ce nom-là, le nom originel de l'association.
Cette association, on y fait quoi aujourd'hui ?
Alors, bon, il y a pas mal d'actions. On essaye de récupérer de l'argent pour aller là-bas, pour pouvoir leur permettre d'acheter du matériel. Donc nous,
Franck Boinet.
Tous les ans, on se fait des réunions tous les mois, mensuellement. On organise là prochainement un vide-grenier à fin octobre. On participe aussi à Harfleur au marché de Noël. On organise un repas tous les ans, on essaie d'en faire au moins, voire deux. Enfin, notre but, c'est de récupérer des fonds pour nous permettre, d'une part, d'accueillir les enfants qui viennent au mois d'août, et d'autre part, quand nous partons là-bas en délégation, de pouvoir ramener du matériel, de l'argent, pour aider à la vie là-bas. Quoi.
صديقة ليك تسمعها عيني عنها ما تنعس عيني عنها ما تنعس ابن عمري ما ننساها يا ابن عمري ما ننساها من زين الطرب وزين الحس زين الطرب وزين الحس
Vous êtes bien avec Didier Blonce et Paroles d'Asso.
C'est une association qui comporte combien de membres environ, de militants?
Ça varie d'une année sur l'autre, mais on tourne entre 60-70 militants à peu près.
C'est déjà une belle association.
C'est déjà pas mal, oui. Après, plus on est, mieux c'est. Quoi. Mais on essaie beaucoup de faire parler autour de nous, à des gens, enfin, quand on part en délégation, quand forcément on demande aux gens de nous aider, nous faire des dons, que ce soit des vêtements, du matériel. Donc petit à petit, on arrive à faire rentrer des nouvelles personnes dans l'association. C'est aussi le but de, quand on va là-bas ou quand on fait venir les enfants, ça nous permet de dialoguer avec plein de gens autour et de faire connaître un petit peu le monde, les Sahraouis, leur façon de vivre et l'histoire.
Une activité aussi importante de notre association, c'est
Pierre Toutain.
La formation de professeurs de français pour les collèges des campements de réfugiés, formation à laquelle je participe avec d'autres associations depuis déjà quelques années, qui est très importante puisque la plupart des enfants qui quittent le collège dans les campements doivent aller suivre leurs études en Algérie où on parle le français.
On a parlé du nomadisme, on a parlé aussi de campements. Il y a une confusion à ne pas faire. Ce ne sont pas des campements nomades.
Plus du tout. Il reste quelques nomades encore, quelques pasteurs qui essaient de survivre en élevant des chameaux ou des chèvres. Mais la majorité de la population, en tout cas dans les campements de réfugiés, c'est organisé en République arabe sahraoui démocratique. Les gens vivent maintenant dans des maisons en terre crue.
Genre pisé.
Oui, voilà, adobe, enfin ce genre de choses. L'immense majorité de la population est fixée dans des wilayas. Ça correspond en gros à des préfectures et chaque wilaya est organisée en daïra. Ça correspond à peu près à une commune. Et il y a toutes les structures d'un État sont en place. Il y a des mairies, il y a des dispensaires, des hôpitaux, il y a des écoles, il y a des collèges. Le nomadisme n'existe quasiment plus.
Ils vivent de quoi? Comment?
De rien. Ils vivent... Oui, je dis de rien parce que dans la région, les pâturages sont quasiment inexistants. Pas d'élevage, la terre n'est pas cultivable et en plus ça n'est pas dans la culture sahraoui, donc pas de possibilité, donc ils ne vivent que de l'aide alimentaire fournie par le plan alimentaire mondial, le PAM, ou aussi une partie est fournie par l'Europe. Mais le nombre de réfugiés dans le monde ayant beaucoup augmenté, la part qu'on réserve aux Sahraouis a tendance à diminuer, donc ils sont confrontés, malgré les progrès qu'ils ont pu faire, à de grandes difficultés en ce qui concerne l'alimentation. On constate, alors que les choses étaient un peu améliorées, on constate aujourd'hui de nouveau des carences alimentaires.
Votre association récupère de l'argent pour aider sur place. Vous avez parlé de vêtements également, vous parlez de carences alimentaires. Vous essayez de gérer également l'alimentaire?
Ouais, l'alimentaire, c'est pas facile à emmener. Nous, on emmène plutôt du matériel, je vous dis, comme des vêtements, du matériel médical aussi. Bon, simple, mais un minimum, quoi, parce que là-bas, il n'y a rien. Après, on a amené l'argent, par exemple. L'année dernière, on a acheté des citernes. Bon, c'est plus un camion, mais on achète les citernes sur place, qui sont réparties dans les familles par la mairie, enfin, le conseil municipal répartit les citernes. Et nous, bon, amener de l'alimentaire là-bas, nous, on ne peut pas... Il faudrait avoir des moyens plus conséquents que ce qu'on a tout de suite.
Cette eau, elle vient d'où?
Alors dans la région, il y a une grande ville, Tindouf, c'est une ville algérienne, et il y a des sources qui sont captées, et l'alimentation en eau, j'exagère, je pense qu'elle ne pose pas trop de problèmes. mais on va pomper beaucoup dans la nappe phréatique. Donc la population de la ville de Tindouf elle-même a augmenté, la population des camps a augmenté aussi, et donc la nappe phréatique, elle n'est pas vraiment renouvelée, donc à terme, ça pourrait poser des problèmes. Il y a quelquefois d'énormes pluies. On a, nous, assisté, il y a 2 ou 3 ans, aux dégâts qui avaient été provoqués par des pluies diluviennes. Maisons détruites, matériel cassé, etc. Et là, on a appris, il y a très très peu de temps, qu'il y a eu de nouveau, au début de l'année, des pluies très importantes qui ont provoqué moins de dégâts. Mais il y a eu, par contre, il y a un petit mois, une tornade qui a détruit les maisons. Donc toutes les infrastructures sont menacées, et donc l'approvisionnement à la fois en nourriture et en eau pose toujours de graves problèmes à l'administration de la République arabe sahraoui démocratique.
Ces sahraouis vivent plutôt sur la côte, où il y a également de grandes populations à l'intérieur des terres.
Je vous ai expliqué que la population sahraoui était partagée en deux. Il y a une partie qui vit sur le territoire du Sahara occidental, dans les territoires qui sont occupés par le Maroc, et là, il y a, en bordure de mer, il y a une population importante. Il y a aussi une petite partie de la population qui circule et qui suit les troupeaux, et il y a l'autre partie complètement différente qui se trouve sur le territoire algérien. Là, il n'y a rien, là. Il n'y a pas d'accès à la mer, et donc les populations sont bloquées dans ce coin de l'Algérie avec l'impossibilité, la quasi-impossibilité d'organiser de façon autonome la vie de la population.
Ces Sahraouis qui se retrouvent en Algérie, se sont retrouvés comment en Algérie? Ce sont des populations déplacées ou c'est l'Algérie qui a également occupé des territoires?
Alors non, l'Algérie... L'Algérie n'a absolument rien à voir avec ce conflit, en dépit des propos tenus par les différents gouvernements marocains. L'Algérie a simplement accueilli sur son territoire une population qui fuyait des combats et qui était menacée. Il y a eu des bombardements sur les villes, il y a eu aussi l'aviation française d'ailleurs, est intervenue à cette époque-là. Et donc les populations, tout simplement, on a d'une certaine manière connu la même chose en 1940 quand la population a fui les combats dans notre pays. Donc la population a fait la même chose que ce que une partie de la population française avait fait, ils ont fui les combats. Et la seule manière de se mettre à l'abri, c'était d'aller vers l'Algérie. Et là, ils ont été accueillis par les Algériens qui leur ont confié un territoire à gérer. Ceci dit, les Algériens ne viennent pas dans les campements. Et les Sahraouis ne vont que très exceptionnellement dans la ville de Tindouf. Donc c'est vraiment un territoire algérien, bien sûr, mais c'est un territoire qui est géré par la République arabe sahraoui démocratique. J'ai oublié quelque chose d'extrêmement important. Les deux populations, Sahraouis séparés, ne peuvent quasiment pas communiquer entre elles, parce que les Marocains ont construit au cours des années un énorme mur de 2700 km de long, qui va de la frontière mauritanienne jusque remonte le long de la frontière algérienne et qui partage de toute façon le territoire du Sahara occidental en deux. Et ce mur est occupé par 150 000 soldats marocains qui interdisent tout contact. Et aujourd'hui, grâce aux moyens modernes, les populations sahraouis des deux côtés du mur peuvent communiquer parce que le téléphone portable, parce que l'ordinateur, parce que etc. etc. Mais physiquement, il y a quasiment l'impossibilité de passer d'un endroit à l'autre. C'est une espèce de mur de la honte, comme on en a désigné d'autres comme ça.
Est-ce qu'il y a une espérance pour ces Sahraouis qui se retrouvent en Algérie de retourner à terme chez leurs compatriotes?
Je pense que depuis 1991, l'idée d'un référendum a été le guide de la politique de la République arabe sahraoui démocratique. La population réfugiée dans les campements, la population dans les territoires occupés, espérait beaucoup de ce référendum parce que c'était l'objectif qui était fixé pour essayer de trouver une solution au problème qui leur était posé. Aujourd'hui, dans les campements, les gens sont, en particulier les jeunes qui sont nés quelquefois, qui sont nés dans les campements, sont extrêmement impatients. Dans les territoires occupés, il y a aussi des manifestations de plus en plus publiques, mais il y a une répression extrêmement brutale de la part de la gendarmerie, de la police, de l'armée marocaine, qui fait plutôt que l'ensemble de la population devient de plus en plus impatient. Et ça pose de nouveaux problèmes, parce que si le gouvernement de la RASD, la République arabe sahraoui démocratique, souhaite vraiment une issue pacifique à la question, les populations, elles, sont directement impactées par les violences marocaines ou par la pauvreté dans les campements. Et depuis 91, pas de référendum, donc une volonté, une idée de peut-être être obligé de reprendre les armes pour que de nouveau on parle d'eux.
C'est toujours parole d'assaut.
Dans toute la région ou vous travaillez avec des endroits bien précis?
Dans le campement, vous parlez.
Par exemple.
Bon, mais nous, surtout, en fait, chaque association qui s'occupe des Sahraouis s'occupe d'un des quartiers des campements. Nous occupons, nous, de la Guerra, principalement, enfin, uniquement d'ailleurs. Et nous, quand on fait venir les enfants, ce sont que des enfants de la Guerra. Quand nous nous rendons là-bas, nous nous rendons à la Guerra. Bon, ce qui ne nous empêche pas après d'aller dans tous les autres campements pour rencontrer...
Ça fait combien d'habitants, ça, environ? Quelle population?
En tout, dans tous les campements, il y a, je ne sais pas, 200 000 personnes.
200 000, oui.
À peu près. Ils sont divisés en 5 campements, bon, plus ou moins grands. Et la Guerra, je ne sais pas combien ça peut représenter de personnes, mais... Vu de là-bas, enfin, c'est assez impressionnant quand on arrive. Moi, je suis arrivé pour la première fois il y a 6 ans là-bas, dans le campement. C'est impressionnant la taille, en fait. Bon, tout est à plat, évidemment, il y a une distance phénoménale, mais le campement, ça fait plusieurs kilomètres de diamètre. Hein. Donc, mais au niveau population, la Guerra,
La Daïra de la Guerra souhaite 10-15 000 personnes. Et le grand campement de Aoussert qui regroupe les différentes daïras, dont la Guerra, ça doit faire 45-50 000 personnes.
Vous apportez des vêtements, des médicaments?
Franck Boinet.
Donc nous, dans la Guerra, nous amenons à l'école, nous apportons du matériel scolaire, des livres, des stylos, enfin, des papiers, des crayons, enfin, tout ce qu'il faut pour l'école, enfin, un maximum. On amène aussi des médicaments qu'on remet au dispensaire là-bas, donc... Ce sont les doliprane, des choses comme ça, des choses relativement simples, puisque évidemment, la frontière, on ne peut pas passer des choses. On est fouillé quand même pas mal. Et après, oui, on amène des vêtements, bon, soit pour la crèche ou même dans les familles. Des fois, il y a des familles qu'on. Parce que l'hiver, là-bas, il faut savoir que la journée, il fait bon. Pour nous, il fait bon. Mais les nuits sont très froides. Et nous, quand on y va fin février, la plupart des enfants sont malades, parce qu'ils ont pas vraiment, comme chez nous, de doudoune ou de choses comme ça. Ils ont pas ça là-bas. Donc, on essaye de leur amener des vêtements chauds, principalement. Parce que, bon, après, quand il fait trop chaud, là-bas, l'été, c'est intenable pour nous. Ils sont montés l'année dernière, je crois, à 58 degrés. Donc, c'est pour ça, nous, on y va fin février, début mars, parce qu'en juillet-août, je pense qu'on tiendrait pas.
On a du mal à réaliser qu'il puisse faire 58 degrés en plein soleil l'été et qu'on puisse avoir froid l'hiver.
Oui, il y a une grosse différence entre la journée et la nuit. Ça tombe très vite. Nous, déjà en février, quand on y est dans la journée, on se promène en t-shirt. Mais bon, dès que le soleil se couche, tout de suite, il faut en mettre quelque chose sur le dos, parce que le sang refroidit très vite et la température retombe. On est à 2-3 degrés le matin. Hein. C'est vraiment limite. Donc eux, ils vivent, évidemment, il n'y a pas de chauffage. Donc leur petite cabane en brique de sable avec un trou en tôle, ça protège ni de la chaleur ni du froid. Et il fait très vite ou froid ou chaud selon l'heure de la journée. Pierre et Joël nous ont fait rentrer dans l'association, enfin nous ont demandé il y a 6 ans à peu près, comme ils savaient qu'on faisait de la course à pied avec un collègue du COCD, nous ont demandé de participer au Sahara Marathon, organisé là-bas justement pour faire parler de la cause. Et donc c'est comme ça que je me suis aperçu qu'en fait, le matin quand on part, il fait très froid, et arrivé à midi, 13h, la température... c'est plus du tout la même chose. Dans la même course, on connaît des températures avec 25 degrés d'écart entre le départ et l'arrivée. Chose que j'ai jamais connue chez nous.
Cette population, elle travaille, elle fait quoi ?
C'est aussi une des questions qui est posée à la République, c'est-à-dire que les services publics.
On imagine, on met des guillemets.
Oui, alors les services publics, c'est l'école, la santé, et puis l'organisation de la vie dans les campements. C'est très organisé, même si c'est pauvre, il y a une vraie organisation. Mais il y a des commerçants, il y a quelques commerçants qui peuvent se fournir en matériel soit en Algérie, soit en Mauritanie. Bon, les commerçants, parce qu'il y a aussi de l'argent qui circule dans les camps. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé ou pour les Français ou pour les Espagnols au moment de la colonisation et qui perçoivent des retraites. Donc, et puis il y a aussi une diaspora sahraoui dans toute l'Europe, en Espagne, en France, en Italie, qui envoie de l'argent dans les campements. Donc il y a de l'argent qui circule dans les campements. Alors tout le monde n'est pas traité de la même façon. Il y a des gens qui ont la possibilité d'avoir de l'argent, puis d'autres non. Donc il y a... Mais il n'y a pas de travail sur place, il n'y a rien à faire. Alors il y a bien à construire des maisons, il y a des petites entreprises qui fabriquent les briques en terre pour...
Oui, c'est familial.
Mais c'est artisanal, c'est complètement artisanal.
La pêche ?
Ah non, de toute façon, la pêche, ça ne concerne que les territoires occupés. Et en plus, les Marocains ont, dans la plupart des cas, supprimé ou interdit aux Sahraouis d'aller pêcher. Donc la pêche, ça les pour les gens des territoires, ça ne les concerne plus. Mais dans les campements, il y a des gens qui sont capables de réparer des voitures. C'est spécial. Mais ça répare. Il y a des mécaniciens, il y a des gens qui réparent les téléphones. Le frère de l'accompagnateur des enfants qui vient chaque année chez nous, son frère fait de l'informatique, donc il répare les téléphones. Mais ça ne reste que des emplois ou des travaux très marginaux. Il n'y a pas d'industrie, il y a quelques jardins collectifs, mais c'est compliqué parce que c'est inhospitalier, et puis de toute façon ça ne concerne que quelques dizaines de personnes par wilaya. Donc du travail, non, il n'y en a pas. Donc les populations attendent. Ils sont dans une situation très inconfortable, pas de travail, pas d'argent, pas d'accès à plein de choses, et donc c'est pourquoi je parlais avant de l'impatience des gens. Ils se trouvent à vivre sans rien.
Pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus sur cette population sahraoui et ceux qui voudraient donner un coup de main à cette association et surtout à la population, je vous rappelle cette association, un camion-citerne pour les Sahraouis. Et vous pouvez contacter Pierre Toutain, Franck Boinet ou un des membres de cette association au 02 35 27 95 61. 02 35 27 95 61. On retrouve aussi les coordonnées de un camion-citerne pour les Sahraouis sur Internet. C'était le 55e numéro de Parole d'Assaut, une émission de Didier Blons, prise de son Gisèle Billan. Aujourd'hui, nous recevions donc un camion-citerne pour les Sahraouis. Merci à vous, Pierre Toutain. Merci, Franck Boinet. Au revoir à tous.
Au revoir, merci.
Au revoir.